France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique. Les croustillons sont-ils bons pour la santé? Qui est Monsieur Podsnap? Qui est Monsieur Pecksniff? L'incarnation de l'hypocrisie anglaise. Tiens donc, Podsnap, Pecksniff, on peut ne pas les connaître. En revanche, Monsieur Pickwick, lui, on le connaît. Les différentes formes d'humour, les types de personnages comiques chez Charles Dickens, une série consacrée aux humoristes anglais ne pouvait que s'intéresser à Charles Dickens. Du coup, nous en saurons plus sur une certaine affaire de pince à sucre et sur les innombrables histoires de domesticité. Sans parler de la gaieté des croque-morts. Heure de culture française, l'humour de Dickens, l'exubérance de Charles Dickens par Silver Monod. Première diffusion sur France Culture le 14 mai 1968.
Charles Dickens serait mieux connu en France aujourd'hui s'il s'était trouvé un éditeur assez entreprenant pour publier une traduction de sa monumentale et magistrale biographie par Edgar Johnson. Cet ouvrage, paru en 1953 aux États-Unis, est intitulé « Charles Dickens, His Tragedy and Triumph »,« Charles Dickens, sa tragédie et son triomphe ». Et il est vrai qu'il y eut dans la vie tendue et passionnée de Dickens des moments de douleur et de tragédie. Quant à son triomphe, qui est encore plus évident, on peut l'attribuer à divers faits. On peut l'attribuer à son art du récit, à sa connaissance de l'homme, à la richesse poétique de ses symboles, à son ardente et si moderne soif de justice sociale, à sa virtuosité dans le maniement des mots, qu'il s'agisse de dialogue ou de description. Pourtant, la qualité du roman dickensien qui a le plus fait pour en assurer la pérennité, c'est bien l'humour. C'est par l'humour que Dickens surpasse et qu'il surclasse ses plus grands contemporains comme Thackeray ou George Eliot. C'est par l'humour qu'il a égalé Shakespeare, c'est par l'humour en un mot qu'il a remporté ses plus incontestables triomphes, et cela alors même qu'il vivait ses plus authentiques tragédies. Or, l'humour dickensien, qui est étroitement lié aux autres talents, aux autres aspects de la personnalité de ce romancier si justement populaire, me paraît être fondé sur la générosité expansive de son être, sur le débordement prodigue de sa fantaisie, en un mot, sur l'exubérance. Dickens lui-même en avait conscience, puisqu'il écrivit un jour à l'un de ses amis « Quand quelque chose me semble cocasse, c'est plus fort que moi. Je ne puis résister à la tentation de pousser ma gaieté à la bouffonnerie et d'en tirer des effets extravagants. » Que Dickens n'ait pas résisté à pareille tentation, nous devons nous en féliciter, car c'était pour lui une tentation salutaire, c'était la pente naturelle de son génie et c'était la source de nos durables joies. Prenons sans plus tarder un premier échantillon, emprunté au début de la carrière de Dickens, aux Pickwick Papers. On sait que ce livre, que l'on peut appeler un roman si l'on veut, commença à apparaître en 1836 sous forme de livraison mensuelle, mais ne prit son essor définitif qu'au bout de quelques mois, lorsque le personnage de Sam Weller vint à occuper une place importante aux côtés de M. Pickwick. Sam Weller, c'est le Sancho Panza du quichotesque Pickwick, mais c'est surtout le type du Cockney, du jeune londonien, éminemment doué d'aplomb, d'astuce et de bagou, comme en témoigne l'histoire du mangeur de croustillons que Sam improvise pour la raconter à son maître.
Tous les soirs après dîner, il s'en allait dans un café du voisinage et il prenait une petite tasse de café avec quatre croustillons. Et après, il rentrait chez lui à pied et il allait se coucher. Un soir, voilà qu'il tombe très malade. Il fait venir le docteur. « Qu'est-ce que vous avez ?» qu'il dit le docteur. « Je suis très malade, » qu'il dit l'autre. « Qu'est-ce que c'est que vous avez mangé ?» qu'il dit le docteur. « Du rôti de veau, » qu'il dit le malade. « Et en dernier, qu'est-ce que c'est que vous avez donc avalé ?» qu'il dit le docteur. « Des croustillons, » qu'il dit le malade. « C'est ça, » dit le docteur. « Je vais vous envoyer tout de suite une boîte de pilules et il faudra plus jamais que vous en preniez, » qu'il dit. « De quoi ?» qu'il dit le malade. « Des pilules ?»« Non, des croustillons, » qu'il dit le docteur. « Comment ?» qu'il dit le malade, en se dressant d'un bond sur son lit. Ça fait 15 ans que je mange 4 croustillons tous les soirs, par principe. Eh bien alors, par principe, va falloir que vous y renonciez, qu'il dit le docteur. Les croustillons, c'est bon pour la santé, qu'il dit le malade. Non, monsieur, les croustillons, c'est pas bon pour la santé, qu'il dit le docteur. Furibard. Mais c'est si bon marché, qu'il dit le malade, l'air un peu moins fier. Et c'est si bourratif pour le prix. Pour vous, ça serait cher à n'importe quel prix. Ça serait cher même si qu'on vous payait pour en manger, qu'il dit le docteur. 4 croustillons par jour, qu'il dit le docteur, ça vous réglera votre compte dans les 6 mois. Le malade, il regarde le docteur bien en face, il réfléchit longtemps dans sa tête, et il finit par y dire « Vous êtes bien sûr de cette affaire-là, monsieur ?»« Je suis prêt à engager ma réputation professionnelle là-dessus, qu'il dit le docteur. »« Combien qu'il faudrait de croustillons d'un seul coup pour me tuer tout de suite ?» qu'il dit le malade. « J'en sais rien, qu'il dit le docteur. »« Est-ce que vous croyez que 2 schelins et 6 pence de croustillons, ça ferait assez ?» qu'il demande le malade. « Ça me paraît vraisemblable, » qu'il dit le docteur. « Et avec 3 schelins de croustillon, je serai sûr de mon affaire alors, qu'il dit le malade ?»« Certainement, qu'il dit le docteur. »« Très bien, qu'il dit le malade. Bonsoir. » Le lendemain matin, il se lève, il fait allumer du feu, il se fait livrer 3 schelins de croustillon, il les réchauffe tous, il les mange tous, et il se fait sauter la cervelle. Et pourquoi a-t-il fait cela, demanda M. Pickwick à Brûle-Pourpoint, car il venait d'être grandement surpris par la conclusion tragique du récit. Pourquoi qu'il a fait ça, monsieur, répéta Sam. Eh bien, pour rester fidèle à son grand principe, que les croustillons, c'est bon pour la santé, et pour montrer qu'il n'était pas disposé à changer ses habitudes pour n'importe qui.
Il n'y a rien ici de très raffiné. Sam est certes un excellent narrateur. Il est même à sa manière un créateur d'univers, créateur de cet univers où les événements sont d'une extrême brusquerie, où le macabre est cocasse et où la mort est indolore. Sam fut le premier d'une longue et glorieuse lignée de personnages dickensiens à conquérir pour l'auteur une place privilégiée dans l'affection du public anglais. Oui, c'est bien surtout du public anglais qu'il s'agit, car Pickwick est resté assez peu accessible à la sensibilité des lecteurs français. L'un des plus distingués et des plus cultivés de nos compatriotes écrivit même à propos de Dickens « Il ne m'amuse pas du tout dans Pickwick ». C'est André Gide que je viens de citer. Et il est vrai que l'auteur de Pickwick n'avait que 24 ans et qu'il lui restait bien des progrès à faire. Il lui restait une certaine profondeur morale et psychologique à cultiver. Il lui restait un certain moelleux à introduire dans sa vision du monde, vision exprimée efficacement et essentiellement par son humour. Les formes spécifiques de cet humour, dans l'ensemble d'une œuvre étalée sur 34 années, de 1836 à 1870, sont diverses. Il ne saurait être question en quelques minutes de les énumérer toutes. Et il est bien difficile, en traduction française, d'illustrer l'aspect verbal de l'humour dickensien. Nous ne retiendrons donc que l'essentiel. Cet essentiel est fait, je crois, de 2 choses, la création de personnages humoristiques d'une part, et d'autre part le traitement de thèmes humoristiques. Les personnages humoristiques de Dickens sont eux-mêmes de 2 sortes. Il y a d'une part ceux qui nous font rire d'eux, c'est-à-dire ceux qui nous font rire à leurs dépens, et il y a d'autre part ceux qui nous font rire avec eux, c'est-à-dire en sympathie avec eux. Les premiers sont ridicules, les autres sont plutôt attendrissants. Un bon exemple de la première catégorie est fourni par M. Podsnap dans Our Mutual Friend, l'ami commun.
Le monde de M. Podsnap n'était pas un monde très vaste moralement, ni même géographiquement. En effet, si ses affaires vivaient du commerce avec d'autres pays, il n'en considérait pas moins les autres pays, à cette importante réserve près, comme une erreur. Parlant de leurs mœurs et coutumes, il déclarait péremptoirement « pas anglaise ». Puis, presto, avec un moulinet du bras et un soudain empourprement du visage, il les envoyait paître. Quand M. Podsnap donna un dîner, la majorité des invités étaient comme l'argenterie et on y trouvait plusieurs articles massifs et qui faisaient le poids. Mais il y avait parmi eux un étranger que M. Podsnap avait invité à la suite d'un long débat intérieur, car il croyait le continent européen tout entier ligué contre la jeune personne.
Au cours du dîner, M. Podsnap tente de questionner son visiteur étranger, qui est en fait un Français, et après quelques tentatives infructueuses, il précise.
Ma question avait trait tout simplement à notre constitution, monsieur. Nous autres Anglais, nous sommes très fiers de notre constitution, monsieur. Elle nous a été accordée par la Providence. Nul autre pays n'est aussi privilégié que notre pays. Et les autres pays, demanda l'étranger, ils font comment? Ils font, monsieur, répondit M. Podsnap en hochant gravement la tête, ils font, je regrette de devoir le dire, ils font comme ils peuvent. C'est un peu partial de la part de la Providence, dit l'étranger en riant, car les frontières ne sont pas larges. Assurément, acquiesça M. Podsnap. Néanmoins, il en est ainsi. Telle est la charte du royaume. Notre île, monsieur, a été bénie à l'exclusion expresse des autres pays qui peuvent exister dans le monde. Et s'il n'y avait que des Anglais dans cette pièce, je dirais qu'il y a chez l'anglais un ensemble de qualités, une modestie, une indépendance, une sûreté, un calme, associés à une absence de tout ce qui serait propre à faire monter une rougeur aux joues d'une jeune personne, qu'on chercherait en vain parmi les nations de la terre. Après avoir prononcé ce petit résumé, M. Podsnap s'empourpra à la pensée qu'il n'était pas rigoureusement impossible que quelques citoyens prévenus de quelque autre pays y apportât de menues retouches. Puis, à l'aide de son moulinet favori du bras droit, il renvoya dans le néant le reste de l'Europe et la totalité de l'Asie, de l'Afrique et de l'Amérique.
Il y a sans nul doute un élément satirique dans cette présentation de la suffisance personnelle et nationale, du chauvinisme et de la vanité d'un esprit conventionnel et borné comme celui de M. Podsnap. Et il est incontestable que Dickens, lorsqu'il abordait par exemple des sujets politiques, lorsqu'il s'attaquait à l'esprit de l'époque victorienne, était tout à fait capable de laisser parler son mépris ou son agressivité. Or, de tels sentiments sont peu compatibles avec l'idée qu'on se fait le plus souvent, et à juste titre, de l'humour anglais, de cette attitude teintée de bienveillance et qui doit se nourrir de ce « lait de l'humaine tendresse » dont parlait Shakespeare. À un échelon intermédiaire entre les deux principales catégories que j'ai définies, il faut citer le personnage de M. Pecksniff dans Martin Chuzzlewit. Ce Pecksniff est à la littérature anglaise ce que Tartuffe est à la nôtre, il est l'incarnation de l'hypocrisie. Un ami de Dickens l'a d'ailleurs complimenté d'avoir osé dénoncer ainsi dans son roman l'hypocrisie, vice national de l'Angleterre. Nous n'avons pas à prendre parti quant au bien fondé de généralisations aussi hasardeuses dans le domaine de la psychologie des peuples, mais l'intention d'incarner dans un personnage comique une importante vérité morale n'est pas contestable, et il sera utile de s'en souvenir tout à l'heure pour apprécier la signification de l'humour dickensien. M. Pecksniff est intermédiaire entre les deux catégories parce que, s'il n'attire évidemment pas la sympathie du lecteur, il n'est cependant pas ridicule. Son comique tient à la comédie qu'il joue de manière permanente, consciemment, et avec une réelle virtuosité. Dans la deuxième catégorie de personnages humoristiques créés par Dickens, la sympathie en revanche est évidente et elle est souvent marquée par l'emploi de la forme autobiographique, c'est-à-dire du récit à la première personne, donc marquée par une identification affective étroite entre auteur et personnage. Prenons-en pour exemple Madame Lirripère dans La pension Lirripère. Cette excellente personne poursuit d'un bout à l'autre de ce conte un discours intarissable et désordonné, mais, me semble-t-il, particulièrement savoureux.
Je ne comprends pas comment quelqu'un d'autre qu'une veuve obligée de gagner sa vie peut commencer à se compliquer l'existence en prenant des pensionnaires, ma chère. Vous voudrez bien excuser cette appellation familière, mais elle me vient tout naturellement sous la plume dans ma petite chambre, au moment où je désire ouvrir mon cœur à tous ceux en qui je peux avoir confiance, et je voudrais bien que ce soit tout le monde. Mais tel n'est pas le cas. Vu que vous n'avez qu'à mettre à la fenêtre un écriteau « chambre à louer » et à laisser votre montre sur la cheminée, et vous pouvez lui dire adieu si vous tournez le dos, même rien qu'une seconde, et même si la personne a l'air distinguée. Et ne croyez pas que vous serez à l'abri si elle est du sexe féminin, comme j'ai de bonnes raisons pour le savoir, dans une affaire de pince à sucre. Vu que la dame, et c'était une dame très bien, elle m'a envoyé lui chercher un verre d'eau en toute hâte, sous prétexte qu'elle allait accoucher. Et certainement qu'il y avait du vrai là-dedans, vu qu'elle a eu à coucher le soir au poste de police.
Madame Liripère en arrive à l'épineuse question de la domesticité et des innombrables difficultés que soulève cette question.
Et puis, il y a la question du caractère. Quoi qu'on n'ait pas souvent affaire à un caractère comme celui de Caroline Maxey, du moins je l'espère. C'était une belle fille aux yeux noirs, cette Caroline, et une fille bien bâtie, comme vous vous en aperceviez à vos dépens quand elle commençait à crier et à frapper. Ce qui arriva pour la première et la dernière fois à cause de deux jeunes mariés qui étaient venus voir Londres au premier étage, et la dame le prenait très haut, et on a supposé qu'elle n'aimait pas Caroline à cause de sa beauté, vu qu'elle-même, elle n'en avait pas à revendre. De toute façon, il faut reconnaître qu'elle a soumis Caroline à une rude épreuve, encore que ce ne soit pas une excuse. Donc, un après-midi, Caroline descend dans la cuisine, toute rouge et emportée, et elle me dit « Madame Liripère, la personne du premier m'a vexée d'une façon intolérable. » Je lui dis « Caroline, gardez votre sang-froid. » Et Caroline me dit avec un rire, à vous donner la chair de poule, « Gardez mon sang-froid. » « Vous avez raison, Madame Liripère, c'est ce que je vais faire. La vieille vache. » Vous auriez pu me faire rentrer à 1000 kilomètres sous terre en me poussant avec une plume d'oiseau quand elle a dit ce mot-là. « La vieille vache, on va voir un peu laquelle de nous deux a le sang le plus froid. » Caroline se défait les cheveux, ma chère. Elle pousse un hurlement et elle s'élance dans l'escalier et moi je l'ai suivie aussi vite que mes pauvres jambes toutes tremblantes pouvaient me porter. Mais avant même que j'aie atteint la chambre, la nappe et le service blanc et rose avaient été jetés par terre avec un grand fracas et les deux jeunes mariés étaient étendus sur le dos dans la cheminée, lui avec la pelle et les pincettes et un plat de concombre sur l'estomac. Et quelle chance que cela se soit passé en été.
D'innombrables autres personnages dickensiens, presque tous plus célèbres que M. Podsnap ou Mme Liripère, pourraient encore illustrer cet aspect du talent de notre romancier. Mais il reste à dire quelques mots de ses thèmes humoristiques favoris qui pourront nous conduire à une meilleure compréhension de la nature profonde et originale de l'humour dickensien. Trois thèmes sont évoqués dans les romans de Dickens avec une persistance singulière. Les pompes funèbres, le théâtre de bas étage et les insuffisances du personnel domestique. Tous les lecteurs de ces deux chefs-d'œuvre que sont David Copperfield et Les Grandes Espérances ont pu être frappés par ce fréquent retour des enterrements comiques, des serviteurs inefficaces et des mauvais acteurs. La gaieté des croque-morts, la terreur qu'inspirent les valets à leur maître et les représentations qui défigurent et ridiculisent les grandes œuvres d'art dramatique ne cessèrent jamais d'être pour Dickens une source d'amusement très vif et très contagieux. Pip, le héros des Grandes Espérances, va avec un camarade voir son concitoyen M. Wopsle, ancien clerc de paroisse, interpréter le rôle de Hamlet dans une modeste salle de Londres.
À notre arrivée au Danemark, nous trouvâmes le roi et la reine de ce pays juchés sur deux fauteuils de cuisine et recevant la cour. La noblesse danoise au grand complet était là. Elle se composait d'un noble gamin qui portait les bottes en peau de chamois d'un ancêtre géant, d'un vénérable père du royaume à la figure sale, qui avait l'air d'avoir été un oblitard dans la vie, et de la chevalerie danoise qui, avec un peigne dans les cheveux et des bas de soie sur les jambes, présentait au total un aspect quelque peu féminin. Mon génial concitoyen se tenait à part d'un air sombre, et je regrettais que ses cheveux frisés et son front ne fussent pas moins improbables. Divers petits faits étranges se révélèrent au fur et à mesure que se déroulait l'action. Le défunt roi de ce pays semblait non seulement avoir été affligé d'une toux au moment de son décès, mais aussi l'avoir emporté dans la tombe et l'avoir rapporté avec lui. En outre, le spectre royal portait un manuscrit fantomatique enroulé autour de son bâton et paraissait le consulter de temps à autre, non sans manifester d'ailleurs quelque anxiété et une tendance à se perdre dans le texte consulté qui faisait fortement penser à la condition mortelle. C'est, j'imagine, la raison pour laquelle cette ombre reçut du balcon le conseil de tourner la page, recommandation qu'elle prit en très mauvaise part. Au sujet de ce majestueux esprit, on remarquait aussi que, s'il apparaissait toujours en se donnant l'air de revenir après une longue absence et d'avoir parcouru une distance infinie, il était fort visible qu'il se détachait d'un mur tout proche de la Seine. C'est pourquoi ces effets de terreur étaient accueillis avec dérision. La reine de Danemark, personne bien en chair, était sans nul doute historiquement blindée, mais le public considérait qu'elle portait une armure métallique trop voyante, car elle avait le menton relié à son diadème par un large bandeau de cuivre, comme si elle avait une fluxion prestigieuse. Elle en avait un autre autour de la taille et un autour de chaque bras, si bien qu'on la désignait ouvertement sous le nom de la timbale. Le noble gamin, paré des bottes ancestrales, manquait de suite dans les idées. En effet, il donnait à entendre, sans reprendre haleine, ou presque, qu'il était matelot de deuxième classe, acteur ambulant, fossoyeur, ecclésiastique et enfin juge d'un assaut d'escrime à la cour. Ces faits entraînèrent progressivement une certaine impatience à son égard et même, quand on s'aperçut qu'il était entré dans les ordres et refusait de célébrer un office funèbre, une indignation unanime qui prit la forme d'une grêle de noix. Enfin, Ophélie était en proie à une folie musicale si lente que, lorsqu'après avoir pris son temps pour enlever son écharpe de mousseline blanche, elle la plia et l'enterra, un spectateur grognon qui depuis un moment frottait son nez impatient pour le rafraîchir contre un barreau de fer au premier rang du balcon grommela « Maintenant que bébé est couché, qu'on nous serve à souper. » Remarque qui était, pour ne pas dire plus, hors de propos.
Écoutons maintenant, sans transition, la description des difficultés rencontrées par David Copperfield et sa jeune femme Dora dans le recrutement et le gouvernement de leur domesticité.
Je parle en ce moment de l'époque où j'étais marié depuis 18 mois environ. Après plusieurs expériences diverses, nous avions renoncé à tenir la maison car cela nous faisait l'effet d'une tentative sans espoir. La maison se tenait toute seule et nous entretenions un petit valet. La principale fonction de ce serviteur était de se disputer avec la cuisinière. Il me semble qu'il vivait sous une grêle de couvercles de casseroles. Son existence entière était une mêlée. Il poussait des hurlements pour appeler au secours dans les circonstances les plus incongrues, par exemple quand nous donnions un petit dîner, et sortait précipitamment de la cuisine, poursuivi par des projectiles métalliques. Nous désirions nous défaire de lui, mais il nous était très attaché et ne voulait pas partir. C'était un garçon larmoyant et quand on faisait allusion à la cessation de nos rapports, il se répandait en lamentations si déplorables que nous étions obligés de le garder. Il n'avait pas de mère. En fait de famille, il n'avait qu'une sœur qui se réfugiait en Amérique dès que nous l'eûmes débarrassé de lui. Cet infortuné valet que j'avais engagé en un instant néfaste pour la somme de 6 livres d'Ichelin par an était pour moi une source de tourments continuels. Je le regardais pousser, et il poussait comme les haricots d'Espagne, en pensant avec une inquiétude douloureuse à l'époque où il commencerait à se raser et même au jour où il serait chauve ou grisonnant. Je ne voyais aucune chance de me défaire jamais de lui. Rien n'a jamais été plus inattendu pour moi que la façon dont le malheureux me tira de cette difficulté. Il vola la montre de Dora qui, comme tous les autres objets qui nous appartenaient, n'avait pas de place propre dans la maison. Et il fut arrêté. Cette surprise et les conséquences qui en découlèrent n'aurait été beaucoup moins pénible s'il n'avait pas été repentant. Mais il fut extrêmement repentant, et de façon bien singulière. Non point en bloc, mais par petites doses. Par exemple, le lendemain du jour où je fus obligé de comparaître pour témoigner contre lui, il fit certaines révélations concernant un casier de notre cave, que nous pensions être plein de vin, mais qui ne contenait rien d'autre que des bouteilles vides et des bouchons. Nous supposâmes qu'il s'était désormais libéré l'esprit en ayant dit ce qu'il savait de pis sur la cuisinière. Mais un ou deux jours plus tard, sa conscience subit une nouvelle crise de remords et il révéla qu'il y avait une petite fille qui venait nous enlever notre pain de bonne heure tous les matins et que lui-même s'était laissé suborner pour approvisionner le laitier en charbon. Au bout de deux ou trois jours de plus, les autorités m'apprirent que mon valet avait permis la découverte d'un loyau de bœuf dans les ordures ménagères et de draps neufs dans le sac de vieux chiffon. J'en vins à être tellement humilié, partant de Dupri, que j'eusse été prêt à lui donner n'importe quelle somme pour obtenir qu'il tînt sa langue ou à offrir un pot de vin rondelet pour qu'on lui permît de s'enfuir. À la fin, c'est moi qui m'enfuyais chaque fois que je voyais approcher un émissaire de la police porteur de nouvelles révélations. Et c'est moi qui menais une vie furtive jusqu'au jour où il finit par être jugé et condamné à la déportation.
Il est inutile de commenter les deux passages qu'on vient d'entendre ou d'y ajouter un extrait illustrant le troisième thème familier de l'humour dickensien. Mieux vaut rechercher ce qui en fait la valeur spécifiquement humoristique. Elle repose, me semble-t-il, sur un même soulignement des contrastes et de l'incongruité. Il y a contraste et il y a incongruité entre la douleur d'une famille endeuillée et l'activité machinale et traditionnelle de ceux pour qui la mort est un gagne-pain comme un autre. Il y a contraste et il y a incongruité entre la grandeur du texte de Shakespeare dans Hamlet et les pitoyables efforts de M. Wopsle et de ses compagnons d'infortune, comme aussi entre leurs ambitions et la médiocrité de leurs ressources matérielles et artistiques. Il y a contraste et il y a incongruité enfin, chaque fois que la relation naturelle ou supposée entre maître et serviteur se trouve bouleversée, chaque fois que l'autorité est exercée par le subordonné et subie par le supérieur. L'humour de Dickens a donc pour effet, sinon toujours pour propos délibérés, de contraindre le lecteur à contempler la réalité d'un œil neuf, de dissiper l'illusion, de détruire la complaisance et la paresse de ses attitudes les plus habituelles. Il y a un élément de révélation dans l'humour dickensien, sans aucune prétention au sensationnel, sans aucune vaticination moralisante. C'est par le rire, c'est par la contagion de sa saine et exubérante gaieté que Dickens nous fait tomber les écailles des yeux. Une définition provisoire de l'humour de Dickens ne nous éloignerait guère de ce qui fait, à mon avis, l'essence de l'humour en général. J'ai essayé de montrer en effet que l'humour dickensien, dans ce qu'il a de meilleur, consiste en une dénonciation de l'incongruité, et nous pouvons conclure que cette dénonciation est à la fois salutaire, savoureuse et exubérante.
C'était Heure de culture française. Sylvère Meneau parlait de l'exubérance de Charles Dickens, texte lu par Patrice Galbaud, première diffusion sur France Culture le 14 mai 1968. Vous pourrez réécouter cette émission en ligne ou la télécharger durant un an sur le site franceculture.fr, rubrique Les Nuits de France Culture.